Bonjour à tous et merci d'écouter RFI. Il est 11h30 en temps universel, midi et demi ici à Paris et à Amsterdam.
RFI Midi, Anne Cantner.
RFI Midi, 2 heures ensemble. Reportage et analyse pour faire le tour de l'actualité dans le monde avec à la une ce vendredi 8 novembre des violences après un match de foot aux Pays-Bas qui font beaucoup réagir. Des actes antisémites contre des supporters du Maccabi Tel Aviv. Le club jouait hier soir contre l'Ajax d'Amsterdam. L'Union européenne se dit indignée. Les gouvernements néerlandais et israéliens dénoncent donc des violences antisémites. Ce dernier a même dépêché 3 avions pour rapatrier les supporters, mais la situation est encore un peu floue. Que s'est-il passé? On en parle dans quelques instants. Vous entendrez notamment le témoignage d'une photographe néerlandaise qui se trouvait sur place. Et on y reviendra aussi avec notre invité dans 3 quarts d'heure. Au sommaire également, le sommet européen qui se poursuit à Budapest, l'Europe au sens large, au moment où sort un rapport alarmiste sur la compétitivité européenne. On parlera aussi tout à l'heure de la Bolivie où les manifestations, les blocages de routes organisés par les partisans de l'ancien président Evo Morales sont suspendus pour 3 jours. Nous serons en ligne avec notre correspondante. Enfin, dans une 20aine de minutes, entretien avec le prix Goncourt, l'écrivain Kamel Daoud est notre invité. Voilà pour le programme. Bienvenue.
RFI Midi, l'Europe à midi.
Les images font le tour des réseaux sociaux depuis hier soir sans qu'il soit possible encore de dire avec exactitude ce qui s'est passé dans la capitale des Pays-Bas. Des violences ont éclaté après le match de foot de Ligue Europa qui opposait l'Ajax d'Amsterdam au Maccabi Tel Aviv. Ça c'est sûr, on le sait. Les autorités néerlandaises et israéliennes dénoncent des actes antisémites et on va essayer d'y voir plus clair avec vous, Julien Chavanne. Bonjour.
Bonjour.
L'ambiance était très tendue, hein, avant même le début du match, et la situation encore confuse à l'heure où on parle.
Oui, prudence pour tenter de démêler le déroulé des faits hier soir. La police néerlandaise a indiqué ce matin que 62 personnes avaient été arrêtées, 5 autres hospitalisées dans la nuit. Les forces de l'ordre étaient déployées en masse dans les rues d'Amsterdam pour ce match. Israël a envoyé plusieurs avions pour récupérer en urgence les supporters du Maccabi aujourd'hui. Un premier appareil doit arriver en début d'après-midi à l'aéroport Schiphol.
Vous avez pu joindre une néerlandaise qui a assisté aux incidents d'hier soir.
Annette, une photographe qui a l'habitude de couvrir les manifestations et les opérations des forces de l'ordre, elle était à la gare centrale un peu avant minuit, à l'arrivée des supporters israéliens. L'ambiance était tendue, les supporters surexcités, plusieurs feux d'artifice sont allumés. Annette les suit ensuite jusqu'à la place du Dam dans le centre, où la situation dérape.
There was a lot of shouting. There were a lot of Dutch youth there.
Il y avait beaucoup de cris, il y avait beaucoup de jeunes néerlandais là-bas. Ce n'était pas vraiment une manifestation pro-palestinienne, mais j'ai vu des drapeaux palestiniens. Il y avait environ 2 ou 3 jeunes avec un drapeau autour d'eux. Ils se criaient dessus avec les supporters en étant un peu provocateurs. Mais ensuite, ils sont devenus agressifs. Et je ne sais pas vraiment qui a commencé, mais ils se sont affrontés. Et c'était comme si 1 ou 2 hommes étaient frappés par les supporters du Maccabi.
By the Maccabi supporters.
Annette a publié plusieurs vidéos sur X. Alors il s'agit évidemment d'un témoignage parmi d'autres. Beaucoup de vidéos circulent. Sur l'une d'entre elles, on voit des individus arracher un drapeau palestinien. Sur d'autres, on entend des supporters israéliens scander des chants anti-palestiniens. Sur l'une de ces vidéos, non identifiées pour le moment, on voit un homme se faire jeter dans un canal de la ville et d'autres qui l'empêchent de remonter s'il ne crie pas « Libérez la Palestine ».
Et beaucoup de réactions politiques depuis, un message d'indignation partagé.
Oui, contre, je cite, des attaques antisémites inacceptables, selon les mots du Premier ministre néerlandais. Le président israélien Isaac Herzog va même jusqu'à parler de pogrom antisémite à Amsterdam. Réaction ailleurs en Europe, Ursula von der Leyen, la chef de la Commission européenne, s'est dite indignée par les attaques ignobles visant des citoyens israéliens quand Berlin dénonce des images terribles et profondément honteuses.
Et est-ce que la photographe que vous avez jointe parle, elle aussi, de violences antisémites?
Non, elle préfère rester très prudente sur ces incidents.
I wouldn't label them like it was a fight between hooligans.
Je ne les définirais pas comme s'il s'agissait d'un combat entre hooligans, mais ce n'était certainement pas un pogrom, non. Sinon, les jeunes que j'ai vus auraient attaqué les supporters. Ce n'est pas ce que j'ai vu. Après avoir posté les vidéos, j'ai réalisé que beaucoup de médias, et particulièrement les médias israéliens, utilisaient ces images dans un contexte qui n'était pas le mien et qu'ils racontaient des choses que je n'ai pas observées hier soir. Je pense que c'est une instrumentalisation politique de mes vidéos. Je couvre régulièrement des émeutes et j'ai toujours envie de montrer ce qui s'est réellement passé.
Un autre match sous tension aura lieu jeudi prochain en France, France-Israël. Le ministre de l'Intérieur français a fait savoir ce matin que la rencontre ne serait pas délocalisée. La France ne recule pas car cela reviendrait à abdiquer face aux menaces de violence et face à l'antisémitisme, a assuré Bruno Retailleau.
Merci Julien Chavanne. On reviendra sur ces violences dans le prochain journal dans 25 minutes maintenant et puis juste après avec notre invité spécialiste de la géopolitique du sport.
Barcelone 105.3 FM.
Les recherches s'étendent en Espagne 10 jours après des inondations hors normes. Les secouristes cherchent maintenant les disparus dans les lagunes, sur les plages. Plusieurs dizaines de personnes portées disparues, en plus des 219 victimes recensées par les autorités. Un hommage leur sera rendu par l'Olympique de Marseille. Le club de foot jouera avec des maillots marqués aux couleurs de la ville espagnole de Valence. Et ces maillots seront ensuite vendus aux enchères. Les fonds versés au Secours populaire pour ces sinistrés qui doivent aussi maintenant se remettre psychologiquement des événements. Pour cela, ils sont accompagnés dans les centres d'accueil d'urgence et depuis le début, dans des centres où s'est rendu il y a quelques jours notre envoyé spécial. Voilà le reportage de Pauline Glaise.
Ça va être très dur parce que ce qu'on a vécu ici, cela ne se soigne pas d'un jour à l'autre.
Cet Équatorien arrivé en banlieue de Valence il y a quelques mois parle d'expérience. Lui qui a vécu un tremblement de terre en 2016. Si Teofilo Enrique Cedeño Moreira s'est rendu dans ce centre d'accueil d'urgence 2 jours après le drame, c'est pour trouver un moyen de rentrer chez lui, pas une aide psychologique. Un soutien professionnel est pourtant proposé. C'est le cas aussi dans le centre de Pechina, une piscine au bassin vide et en travaux qui fait curieusement écho aux événements. Maria Garcia apporte son soutien dans ce refuge d'où les naufragés partent peu à peu.
Beaucoup sont arrivés en état de choc parce qu'ils ne pouvaient pas assimiler ce qu'ils avaient vécu. On a beaucoup pris en charge la frustration de la part de personnes qui avaient pu rester dans des endroits à peu près sûrs et qui voyaient des personnes qu'ils ne pouvaient pas aider.
Et parfois, ce ne sont pas les psychologues, mais ceux qui ont passé les moments les plus difficiles qui consolent leurs compagnons d'infortune.
Une dame qui est restée accrochée pendant plus de 5 heures à un lampadaire avec un foulard était près d'un immeuble où il y avait beaucoup de résidents. Ils étaient frustrés de ne pas avoir pu l'aider et elle leur a assuré que oui, ils l'avaient aidé. Parce que pendant des heures et des heures, ils l'ont soutenu, lui ont crié « Tiens bon, tu peux y arriver, ils vont bientôt venir te chercher ». Donc elle s'est sentie accompagnée pendant ces heures d'angoisse.
Des heures d'angoisse que Maria Garcia et ses collègues tentent d'apaiser par leur présence.
La psychologue essaie de maintenir le calme, cela transmet la sérénité à ces personnes, dans la mesure du possible. Souvent, il y a un trop-plein et il faut simplement l'accompagner.
Et le soutien psychologique passe aussi par un soutien logistique.
On cherche les solutions pratiques, on cherche des numéros de téléphone, on réunit des proches qui étaient dans différents lieux d'accueil.
De nombreux psychologues ont offert leur service bénévolement, à tel point que la mairie de Valence a dressé une liste d'attente. Beaucoup de sinistrés ne se sont pas rendus dans ces centres, alors des thérapeutes traversent la passerelle jusqu'à La Torre, un quartier sinistré de Valence. D'autres participent aux maraudes de la Croix-Rouge. Mais selon Diego Fernandez-Martinez, médecin de la Croix-Rouge, ce n'est pas dans les premiers jours que le besoin se fait le plus sentir.
Dans un premier temps, le stress et l'adrénaline font qu'il gère ça bien. Le problème, c'est à partir du moment où il commence à revenir à la réalité. C'est là que les gens s'effondrent. À un moment donné, l'adrénaline retombe et c'est à ce moment-là qu'ils ont besoin d'aide psychologique et de soutien.
À quelques pas du camion de la Croix-Rouge, Sandra Riner n'est venue chercher ni psychologue ni médicaments, mais des seaux et du nécessaire pour nettoyer le rez-de-chaussée de sa maison. Sa thérapie provisoire.
Nous descendons, travaillons, nettoyons et rentrons à la maison. C'est un peu à la maison, quand la lumière s'éteint dans la rue, qu'on a le temps de se dire « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Mais on n'y croit pas vraiment. Ce qu'il y a, c'est que je suis à 500 mètres de la vie normale. Je sais que derrière ce pont, les gens vivent normalement et c'est très bizarre, tout est très bizarre. Le fait de bouger physiquement nous a empêchés de pleurer, mais ça va venir et ça va être une vague. Et je pense que beaucoup d'entre nous auront de nombreuses années de cauchemars à entendre l'eau dans la rue. Un jour, on va s'écrouler.
Años de pesadillas, de oír el agua, en la calle.
Consciente de marcher sur du sable mouvant, avec ses collègues, Sandra Riner a demandé à son employeur de leur fournir un appui psychologique. Une catastrophe naturelle de cette ampleur peut affecter au-delà des sinistrés, explique Vicente Martinez, psychologue de la municipalité de Valence.
Cela provoque un état d'alerte et cela se diffuse dans le reste de la population qui y voit le chaos, qui y voit une situation, je ne dirais pas plus grave qu'elle ne l'est, car elle est très grave, mais qui génère beaucoup d'incertitudes sur les réseaux sociaux. Les gens qui disent « et maintenant il va se passer ça ou ça ». Et cette anxiété, il est très difficile de la contrôler au niveau des masses. Elle est plus facile à contrôler au niveau plus thérapeutique, individuel, par groupe, par collectif, dans les écoles. Mais c'est vrai que cela crée beaucoup d'anxiété.
Le prêtre d'une des paroisses traversées par le torrent d'eau se projette dans les semaines qui viennent. Malgré la chaleur du soleil, il pense aux fêtes de Noël, des fêtes que certains sinistrés devront passer, souligne-t-il, sans même des photos de leur vie. En attendant, tout en organisant l'aide matérielle, il a ouvert dès les premiers jours son église. Il a vu des paroissiens venir chercher du réconfort dans la prière.
Voilà, c'est vous qui avez réalisé ce reportage, Pauline Glaise. On entend bien que le coup est très dur pour les sinistrés qui ont perdu des proches, qui ont vu parfois leur maison être complètement noyée, leur quartier, presque parfois toute leur ville affectée. Quelles ont été vos impressions quand vous étiez sur place il y a quelques jours ?
Eh bien, les dégâts sont très impressionnants. Alors, on l'a beaucoup dit, il y a de la boue partout au sol, des voitures éparpillées, renversées, enchevêtrées. Mais en fait, j'avais beau avoir vu des images, le fait d'apprécier les dégâts à 360 degrés, ça prend une autre dimension. La première fois qu'on est allé sur place avec Angelica Pérez de la rédaction en espagnol de RFI, Angelica qui a contribué au reportage qu'on vient d'entendre, c'était assez d'avis et Alfafar. Et là, aux dégâts flagrants s'ajoute un sentiment un peu d'anormalité dans le quotidien. Il n'y a pas de bruit de voiture, par exemple. Une zone commerciale a été quasi déserte. Dans une autre ville, ce qui a beaucoup frappé, ce sont les rues encombrées de détritus, une multitude d'objets. Et pourtant, il y a quand même une certaine uniformité au final, parce qu'on reconnaît les formes. Mais c'est un paysage presque unicolore, avec cette couleur de boue et l'odeur âcre qui va avec. Et la difficulté, c'est de retransmettre ce paysage. D'ailleurs, il y a plusieurs habitants qui estiment que les télés n'ont pas retransmis l'ampleur de la situation. Peut-être aussi parce que c'est difficile à retransmettre.
Alors il y a ça, cette situation, cette désolation que vous nous décrivez. Et puis quelque chose d'assez étonnant qu'on entend dans votre reportage, c'est qu'à quelques kilomètres, parfois même moins, la vie suit son cours.
Oui, le centre de Valence, en fait, est intact. Donc, quand on va dans les quartiers inondés, on a un peu l'impression d'entrer dans un autre monde. C'est un peu comme si on était dans un jeu vidéo et qu'on changeait d'univers tout à coup. Le trait d'union entre ces deux mondes, ce sont quelques ponts et des centaines de volontaires qui sont allés prêter main forte aux sinistrés. Et la coexistence de ces deux univers, ce n'est pas anodin. Sandra Riner, qu'on a entendu dans le reportage, me disait une semaine après la crue, elle n'était pas retournée dans le centre pour ne pas perdre de temps et aussi parce qu'elle avait peur que ce soit trop dur pour elle de voir la normalité et de devoir revenir ensuite dans son quartier qui porte encore les stigmates de l'inondation.
Merci Pauline Glaise. Ce reportage et ceux que vous avez réalisés pendant votre mission en Espagne dans la région de Valence sont à retrouver sur notre site internet rfi.fr.
RFI, l'Europe à midi.
Les Européens sont toujours réunis à Budapest, deuxième jour de sommet avec au programme aujourd'hui des discussions sur le rapport Draghi, rapport rédigé par l'ancien président de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi. 400 pages pour aboutir à un constat très sombre. Il prédit une lente agonie de l'Europe s'il n'y a pas d'investissement massif dans la recherche et dans l'innovation. Carlota Morteo, vous êtes en direct de Budapest. Quelles sont les propositions de ce rapport Draghi pour relancer la compétitivité ?
Alors, déjà, Mario Draghi chiffre les investissements nécessaires à 800 milliards d'euros par an. C'est 4% du PIB de l'Union, l'équivalent de 3 plans Marshall. Vous savez, ce fameux paquet de prêts américains qui a permis de reconstruire l'Europe après la Seconde Guerre mondiale, c'est dire l'ampleur de ce plan de relance. Il s'agit, au fond, de mettre en place une véritable stratégie industrielle à l'échelle européenne pour rester un continent de production et pas seulement un marché de consommateurs. Pour cela, Mario Draghi suggère de réaliser de nouveaux emprunts européens en commun sur le modèle du plan de finance de relance relance post-Covid. Il propose de construire une union des marchés de capitaux pour mieux orienter l'épargne européenne pour qu'elle finance des projets européens. Et puis, il défend l'idée de faire émerger des champions européens, par exemple dans le domaine des télécommunications, faciliter les fusions parmi la centaine d'opérateurs existants pour qu'ils soient moins nombreux, plus gros, afin de faire des économies d'échelle.
Avec des secteurs clés, des domaines identifiés dans lesquels l'Europe devrait investir ?
Oui, les domaines prioritaires pour rester compétitifs sont aussi ceux qui doivent permettre à l'UE de rester souveraine par rapport aux États-Unis et à la Chine. Mario Draghi met en avant les secteurs de la défense, des nouvelles énergies, des matières premières critiques, de l'intelligence artificielle, des semi-conducteurs, mais aussi de la pharmacie et des transports. À chaque fois, le rapport détaille des mesures précises. C'est donc un document très précieux pour avoir des discussions techniques. Et s'il n'est pas détricoté, qu'il ne finit pas dans un tiroir, le rapport Draghi devrait servir de feuille de route à la nouvelle Commission européenne. On sent qu'il y a un consensus au sein des 27 sur le constat, sur la direction générale à prendre. Il va maintenant falloir se mettre d'accord sur les outils et sur les recettes. C'est le nerf de la guerre. Les pays frugaux, l'Allemagne, la Suède ou les Pays-Bas veulent limiter les dettes publiques. D'autres, comme la France, l'Italie ou l'Espagne, qui sont en déficit budgétaire, sont moins rigides. Pour que ce choc des investissements ne repose pas trop sur les États, il faut que l'Union européenne trouve des ressources propres et qu'elle réussisse à capter davantage des investissements privés. C'est le défi aujourd'hui.
Carlotta Morteo en direct de Budapest, 11h46 en temps universel. Et à Londres, on prend tout de suite la direction du Royaume-Uni.
L'Européen de la semaine.
C'est un virage à droite toute qui se confirme à la tête des conservateurs britanniques. Le parti Tory a décidé de nommer à sa tête Kemi Badenoch. Âgée de 44 ans, élevée au Nigeria, Kemi Badenoch devient la première femme d'origine africaine à occuper un tel poste au Royaume-Uni. Et elle est l'Européenne de la semaine sur RFI. Bonjour Daniel Valo.
Bonjour.
C'est donc l'aile droite du parti que les conservateurs ont choisi en la désignant pour en prendre la tête.
Oui, en témoignent les premières déclarations de la nouvelle dirigeante conservatrice dans la foulée de son élection ce samedi. Kemi Badenoch, désignée avec près de 57% des suffrages pour succéder à l'ancien Premier ministre Rishi Sunak, promet de revenir aux valeurs fondamentales du Parti conservateur britannique.
Our party is critical to the success of our country.
Notre parti est essentiel à la réussite de notre pays. Mais pour être entendu, nous devons être honnêtes sur nos erreurs et sur le fait que nous avons laissé nos principes de base nous échapper. Le temps est venu de dire la vérité.
The time has come to tell the truth.
Kemi Badenoch, avant d'arriver à la tête du Parti conservateur, a eu un parcours hors du commun. Elle a grandi au Nigeria au sein d'une famille plutôt aisée. Son père est médecin, sa mère universitaire. Et bénéficiant de la nationalité britannique, elle choisit de terminer ses études au Royaume-Uni. Elle devient ensuite ingénieure en informatique et commence à militer au sein du Parti conservateur dans les années 2000, à un moment où les Tories tentent de se moderniser. Pour cela, ils vont mettre en avant des militants issus, comme elle, de minorités ethniques. Agnès Alexandra Collier, professeure en civilisation britannique à l'Université de Bourgogne.
Elle parvient à réconcilier, si vous voulez, deux stratégies qui ont dominé le Parti conservateur ces dernières années, c'est-à-dire apparaître comme un parti inclusif, hein, du moins dans la forme, et en même temps continuer sa progression idéologique vers la droite de l'échiquier politique. Et donc on voit apparaître comme ça des minorités ethniques comme Priti Patel, même Rishi Sunak et Kemi Badenoch en fait partie, de minorités ethniques qui incarnent cette inclusion tout en étant particulièrement à droite et peut-être plus à droite que, si je puis dire, les députés blancs traditionnels du Parti conservateur.
Alors, au-delà de ce parcours, il y a la personnalité, bien sûr, personnalité très forte de la nouvelle dirigeante conservatrice.
Oui, Kemi Badenoch est connue pour ses déclarations très provocatrices, très clivantes, mais en respectant certaines limites, contrairement à d'autres personnalités au sein de la mouvance la plus à droite du Parti conservateur.
Kemi Badenoch, elle a des propos assez provocateurs aussi, mais c'est quelqu'un d'assez posé en fait et assez réfléchi dans ses propos. Donc il n'y a pas cette espèce de virulence ou d'agressivité dans la façon dont elle parle. Et puis elle a une expérience gouvernementale qui doit lui donner certainement une aura auprès des militants conservateurs.
Sur le fond, Kemi Badenoch propose un retour à ce qu'elle appelle le vrai conservatisme, favorable au Brexit. Elle veut réduire l'immigration illégale, limiter le rôle de l'État, favoriser les entreprises. Enfin, elle affirme vouloir lutter contre l'influence des idées gauchistes au sein de la société avec un modèle cité en permanence, celui de Margaret Thatcher, Thibaut Arroy, maître de conférence en civilisation britannique à l'Université de la Sorbonne.
La référence à Margaret Thatcher est un peu une référence obligatoire pour tout leader du Parti conservateur. Maintenant, je pense que le fait que Kemi Badenoch cite si souvent Margaret Thatcher, c'est une façon pour elle d'assumer cet héritage libéral, de montrer qu'elle ne cherchera pas à transiger avec ce libéralisme et donc qu'elle n'est pas du tout dans la lignée plus modérée de certains conservateurs. Et elle cherche certainement à démontrer, en faisant appel à la figure de Margaret Thatcher, qu'elle se place dans cette lignée vraiment la plus à droite dans le Parti conservateur.
C'est donc un virage à droite assumé et revendiqué que propose Kemi Badenoch avec un double objectif, incarner une opposition frontale au nouveau gouvernement travailliste et reconquérir les électeurs séduits par Reform UK, le parti de Nigel Farage positionné à la droite des Tories. Un double pari risqué pour la nouvelle dirigeante conservatrice qui s'est toutefois fixé comme objectif de ramener son parti au 10 Downing Street en 2029 lors des prochaines élections.
Merci Daniel Valo.
RFI Midi. Un monde de tech.
On s'éloigne un peu du continent européen pour revenir sur les élections de mardi aux États-Unis, largement remportées par Donald Trump et par le Parti républicain, à l'issue d'une campagne, Dominique Dezonnet, dans laquelle l'intelligence artificielle a occupé une place très importante.
Oui, généralement, ces logiciels d'intelligence artificielle analysent pas mal de données et mettent en avant, surtout pour les candidats, une ou deux préoccupations qui ont été identifiées par les IA comme importantes pour les citoyens. C'est ainsi que le thème de l'inflation, par exemple, a forgé l'essentiel de la campagne en ligne de Trump auprès des classes moyennes qui se sentaient abandonnées ou paupérisées. Mais l'arme fatale de la campagne du républicain reste évidemment la diffusion massive de messages d'infox générés par IA. Toutefois, pour mieux viser les électeurs, ces programmes du camp trumpiste ont permis de dresser un profil exact des internautes sur les réseaux sociaux en utilisant la même technique que pour diffuser des pubs ciblées, nous précise David Chavalaria, directeur de l'Institut des systèmes complexes de Paris.
Alors, on connaît bien l'efficacité de ces systèmes pour ce qui est de vendre des biens et des services. Alors ensuite, la question de savoir si on arrive bien à prédire ou être efficace dans la conversion d'opinion, c'est plus difficile à dire. Et on peut penser que, à partir du moment où vous avez accès à l'ensemble des traces numériques des utilisateurs, comme c'est le cas pour X et Elon Musk, à ce moment-là, vous pouvez, de manière très fine, essayer de trouver la corde sensible de tout un ensemble de catégories d'électorat, de lui envoyer exactement le contenu qui va la faire réagir dans le sens que vous souhaitez.
Aucune prise de conscience des citoyens américains sur les dangers de l'intelligence artificielle pendant cette campagne ?
Oui, pourtant, la désinformation et la reproduction des biais informatiques étaient omniprésentes dans les données traitées par IA sur la plateforme X d'Elon Musk. Mais cette machinerie de guerre électorale assistée par IA a parfaitement fonctionné et sans doute permis au nouveau président des États-Unis de remporter la victoire.
Merci Dominique Dezonnet. On va parler littérature maintenant avec l'écrivain Kamel Daoud, tout récemment auréolé du prestigieux prix Goncourt en France. Il lui a été remis au début de la semaine pour son troisième roman, intitulé Houri, paru aux éditions Gallimard. C'est une fiction qui revient sur la décennie noire en Algérie, la guerre des années 90-2000, durant lesquelles ont été assassinées des milliers de personnes. Ce roman est raconté du point de vue d'une jeune femme, prénommée Aube, égorgée, enfant, mais survivante, miraculeuse. Catherine Fruchon-Toussaint a rencontré Kamel Daoud pour une interview sur le vif, quelques instants seulement après l'annonce de son prix Goncourt.
Félicitations Kamel Daoud. Vos premiers mots ?
On n'en a pas dans ces circonstances, on n'a pas de premiers mots. On a des mots qu'on va retrouver par la suite, mais là c'est autre chose. Ça a tellement du sens pour moi, pour les gens qui vont écrire, pour les gens qui n'ont pas la liberté d'écrire, pour les gens qui n'ont pas la liberté de lire, d'acheter des livres, d'en jouir. C'est un pays qui protège les écrivains. Actuellement, avec ce qui se passe un peu partout dans le monde, mettre en valeur un écrivain, un écrit sur la guerre avec des enjeux pareils, c'est quelque chose d'admirable. C'est un prix qui est donné à un écrivain, je ne nie pas, mais c'est aussi, sachant ce que vivent des écrivains de l'autre côté du mur de nos démocraties, c'est un signal fort pour tous les gens qui sont tentés par cette aventure, celle d'écrire et de publier, et de lire aussi. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre ? J'ai pas de mots. Enfin, j'ai écrit un gros livre, je pense que j'ai épuisé tous mes mots maintenant.
Comment est né ce livre, Houri ?
C'est un livre que chaque Algérien peut raconter. C'est un livre que nous avons tous vécu. C'est un livre qui peut donner du sens aussi à ce qu'on vit dans ce pays-là. Mais il est né parce que je suis venu en France. Parce que c'est un pays qui me donne la liberté d'écrire. Et ça, c'est très important. Je sais qu'on aime faire du French bashing, mais pour moi, ce pays-là, c'est un pays d'accueil pour les écrivains, pour les écritures et tous ceux-là qui viennent d'ailleurs et qui... C'est un pays de liberté. On a toujours besoin de trois choses pour écrire. Une table, une chaise et un pays. J'ai les trois.
Comment est-ce que vous expliquez ce silence autour de la décennie noire en Algérie ?
Je ne peux pas répondre. Je pense que c'est quelque chose de tragique. Ce n'est pas facile de parler d'une guerre. Il faut du temps, il faut du deuil, il faut des mots, il faut de la distance.
Et c'est un livre qui justement veut aller contre ce silence ?
Non, je pense que c'est un livre qui va aller dans le sens de... Ce n'est pas un livre de guerre, c'est un livre de résurrection. C'est un livre d'espoir. C'est qu'on peut se reconstruire, on peut s'accepter, on peut... J'aime bien ce mot qui est galvaudé, mais qui est inévitable, c'est de la résilience.
Qui est Aube ?
Toutes les femmes, y compris la femme qui s'est déshabillée dans une université en Iran. Toutes les femmes, partout. Aube, c'est toutes les femmes, ici, dans des quartiers, en France, en Iran. Aube, c'est toutes les femmes. Ce n'est même pas moi, c'est toutes les femmes.
Elle vous a été inspirée par quelqu'un ?
Par beaucoup. Par beaucoup. On ne peut pas écrire sur une guerre à partir de rien. On écrit à travers ces rencontres, les gens qu'on a rencontrés.
Encore une petite question. Vous parliez de l'importance des livres. Et ici, dans le roman, il y a vraiment un personnage très important qui est le libraire. Oui. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Et quel est son rôle ici dans votre roman ?
Je n'aime pas le roman à symbole, mais ce sont des libraires que j'ai rencontrés en Algérie à l'époque qui font vraiment du sacerdoce, qui prennent les livres dans des malles, qui prennent les auteurs, qui prennent dans leurs véhicules, qui vont vers les villages, etc. C'est un travail que je trouve admirable. Parce qu'ils ne gagnent pas de l'argent, ils ne gagnent pas en prestige, en prix, mais ils sont là parce qu'ils aiment bien le livre. Je pense qu'ils sont dans des tranchées, ils essaient de vivre. J'ai un immense respect et beaucoup d'admiration pour les libraires dans les autres pays que vous devinez, dans certaines géographies.
Et vous pensez que le prix Goncourt, justement, peut leur donner la force de diffuser votre livre à nouveau en Algérie ?
Non, ça ne dépend pas de la force. Ce sont d'autres considérations qui entrent en jeu, l'autorisation de publier, la loi, enfin, il y a beaucoup de choses. Mais ceci dit, le livre circule, comme je le disais tout à l'heure, et donc on ne peut pas interdire un livre. On ne peut plus le faire. Merci.
Merci beaucoup.
L'écrivain Kamel Daoud au micro de Catherine Fruchon-Toussaint. Vous pourrez l'entendre plus longuement tout à l'heure dans l'émission Littérature sans frontières, ainsi que Gaël Faye, lauréat, lui, du prix Renaudot. L'émission sera diffusée tout à l'heure à 13h30, temps universel. Juste avant cela, dans un peu plus d'une demi-heure maintenant, il y aura l'actualité africaine, Afrique Midi. Bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Anne.
Et vous parlerez tout à l'heure.
Une alternance historique ce matin au Botswana. Douma Boko a prêté serment après sa victoire surprise aux élections qui a mis en déroute le BDP au pouvoir dans ce pays d'Afrique australe depuis l'indépendance. Et puis une offensive terrestre est en préparation dans la région du lac Tchad après l'attaque meurtrière d'une faction de Boko Haram contre une base de l'armée tchadienne il y a 10 jours. Le président Mahamat Idriss Déby est sur place pour conduire les opérations.
À tout à l'heure, Nicolas Sûr. Dans 2 minutes, un nouveau journal, toute l'actualité internationale et d'ici là, de la musique. Pierre Lapointe et le titre Le Secret à découvrir en ce moment dans la playlist RFI.
Me voilà une fois de plus seul sur scène à chanter pour vous l'amour, la mort, la haine. Vous êtes là à me regarder béat, à tous vous demander pour qui mon cœur bat. Mais un homme comme moi sait qu'il faut garder pour soi ses secrets, ses envies. Non, vous ne le saurez pas. Pour qui sont mes chansons, pour qui je souris, qui est cet être à qui je dédie ma vie, avec qui je rêve de partager mon lit. Quand la lune arrive et que le soleil fuit, même si j'aime bien vous parler de ce qui me plaît, même si je garde pour vous le plus grand des respects, il y a certaines choses que je ne dis pas que je t'aime. Les secrets ont cette qualité de rester muet. Mais j'avoue que j'ai un problème, mon amour en moi se déchaîne,
Mon cœur veut crier le nom de celui que j'aime, mais je ne lui en donne pas le droit. Combien de temps peut-on jouer au déni avant de voir l'attente gâcher nos vies? Est-ce un crime, une honte, une calomnie?
L'atelier des médias, Steven Jambeau.
Les médias sont de plus en plus nombreux à parler d'environnement. Certains sont même spécialisés sur les enjeux écologiques. C'est le cas d'1.5 qui se présente comme le média de l'action climatique au Québec. Alors qu'1.5 vient de se voir remettre un prix francophone de l'innovation dans les médias, je reçois l'une de ses cofondatrices, Clémence Lalose, dans l'atelier des médias. Rendez-vous dimanche à 11h10 temps universel sur RFI.